impressive.
You can sit on the moon and it looks like they picked up CQOT and clear as a bell.
Fascinating.
Your analysis seems logical.
CKUT is on the air.
Le matin, mon cadran est à CKUT. Pendant le déjeuner, j'écoute CKUT. En me rendant au travail, j'écoute CKUT.
Pourquoi quelques yeux clairs veulent tout casser?
Au travail, on écoute tous CKUT. Pendant que je prépare le souper, c'est CKUT. Plus tard, pour relaxer, je syntonise CKUT. Et dans mon lit, j'écoute encore CKUT.
CKUT! CKUT!
Je capote sur toi.
Tout ça au 90.3 FM à Montréal. Following is a previously broadcast program.
Dignité Noire, présenté par Mbayaji Mbayriway.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est Magloire Mpembe au micro aujourd'hui, en remplacement de Mbaye. Nous sommes le lundi 24 octobre 2022 et vous écoutez Dignité Noire sur CKIA 88.3 FM à Québec. Vous pouvez également nous suivre en direct ou en balado sur notre page Facebook, Dignité Noire, sur le web à l'adresse www.ckafm.org. Grâce à notre application pour smartphone, CKIA FM, vous pouvez également nous suivre en toute liberté, partout et en tout temps, sur votre téléphone intelligent. Grand merci pour votre fidélité et pour votre confiance. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir. Au menu, nous évoquerons en deuxième partie d'émission la vie et l'œuvre d'un grand de la rumba congolaise, à savoir Verkis Kiamwangana Mateta, avec Kerwin Maizo depuis Paris. Verkis Kiamwangana Mateta nous a quittés le 13 octobre dernier. Ce sera le premier sujet d'une toute nouvelle rubrique intitulée Escale Rumba. Nous parlerons également de l'impact du racisme sur la santé mentale. Mais pour commencer cette émission, nous allons donner la parole à notre premier invité. Il s'appelle Nankere Ozias, membre de la société civile tchadienne. Il est actuellement étudiant à Bordeaux. Il décrypte la situation actuelle au Tchad.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous allons avoir une entrevue sur la situation actuelle au Tchad. Mais avant de vous poser la première question, j'aimerais vous demander de vous présenter auprès de nos auditeurs qui nous suivent.
Bonjour Monsieur Magloire, je suis Nankere Ozias, tchadien actuellement à Bordeaux en France. Je suis étudiant à l'Université de Bordeaux-Montagne et pour le moment je suis un travailleur. Voilà.
Merci beaucoup. Nankere Ozias, la situation au Tchad est actuellement assez tendue. La première question que je vous pose, c'est de nous faire un état des lieux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à l'instant où nous parlons? Qu'est-ce qui se passe à N'Djamena et dans les autres villes du pays?
Merci d'abord. Avant d'aborder, je présente mes sincères remerciements à cette association qui fait un travail impeccable de soutien aux méprisés de l'Afrique et plus particulièrement ceux du Tchad en nous tenant le micro. En cherchant à savoir effectivement sur ce qui se passe actuellement au Tchad. Il s'agit de la politique, mais qui dégénère sur la population qui est en train de franchement souffrir parce qu'on parle en termes de 150 personnes décédées, mais pas de chiffres officiels, parce que je ne dispose pas d'un chiffre officiel, mais on fait état, lui, de 150 personnes tombées, et plus de 1500 personnes qui sont blessées, et des arrestations, on ne peut pas maîtriser parce que ça continue du 20 jusqu'à 21, même cette nuit, il y a toujours des arrestations. Donc, on sait qui a été arrêté. Jusqu'à là, il y a des jeunes qui sont disparus. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils font partie, n'est-ce pas, de personnes décédées, des tortures. Il y a des gens qui sont décédés suite à la torture, tout ça. On ne sait pas exactement les chiffres qui pourraient, n'est-ce pas, faire tomber. Donc, je pense qu'il fallait attendre peut-être dans quelques jours pour savoir qui est décédé, qui est simplement en prison et qui est aussi, n'est-ce pas, fait simplement disparu, voilà. Donc, pour le moment, la situation est compliquée.
Ces situations sont arrivées à la suite des manifestations qui ont été organisées par différents mouvements. Pourquoi est-ce que ces manifestations ont été mises en place, ont été organisées? Pourquoi est-ce que les gens se sont lancés dans la rue ces derniers jours au Tchad?
Oui, actuellement, personne n'ignore, n'est-ce pas, fait la malgouvernance de l'Afrique francophone. Plus particulièrement, n'est-ce pas, la dictature imposée au Tchad depuis 30 ans après l'arrivée d'Idriss Déby en 90 au pouvoir. Alors, les gens ne manifestent pas parce qu'ils ont appelé, n'est-ce pas, fait, ils suivent un homme politique, non. Les Tchadiens, surtout les jeunes, manifestent individuellement pour réclamer leur liberté. Ils réclament effectivement les conditions de vie dans leur pays. Parce que, sans vous mentir, depuis des années, les entreprises privées sont fermées. Même les entreprises étrangères ont quitté parce qu'il y a tellement d'insécurité au Tchad. L'insécurité due, n'est-ce pas, faite à un pays qui ne compte que sur l'armée. Une armée complètement mal formée qui ne sait quoi faire dans la gestion, n'est-ce pas, faite des humains par rapport au matériel. C'est toutes ces injustices qui font que les jeunes, pas seulement en chômage, mais qui sont méprisés chez eux, n'arrivent pas franchement à supporter, n'est-ce pas, cette dictature qui impose encore d'un père à un fils, c'est-à-dire impose encore le fils d'un dictateur au pouvoir. Alors, les jeunes ne réclament pas simplement le pouvoir, ils ne réclament pas le pouvoir, mais les jeunes réclament les conditions de vie. C'est ça qui a dégénéré, n'est-ce pas, fait cette grande manifestation. Et voilà cette manifestation sanglante. C'est pas aujourd'hui que les Tchadiens tirent sur les Tchadiens. Ça a été toujours comme ça.
On va rappeler que l'actuel président du Tchad a succédé à son père qui est décédé dans des circonstances non clairement élucidées. Et par la suite, la junte militaire au pouvoir avait pris l'option de ne pas se représenter, de terminer la transition et de ne pas se présenter pour les prochaines élections. Et malheureusement, cette option n'a pas été maintenu parce que actuellement le président actuel va diriger le pays pendant 2 ans et pourrait se présenter pour les prochaines élections. Qu'est-ce que cette décision a joué comme rôle dans ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, effectivement, les jeunes, après avoir, n'est-ce pas, appris le décès du président Déby et sa succession directement par son fils, il y avait, n'est-ce pas, fait la manifestation d'où il y a 17 personnes qui étaient tombées. Mais c'était les communautés internationales partout qui ont intervenu pour dire que le fils de Déby a pris un engagement de faire la transition des 18 mois chrono et il ne pourrait pas se maintenir par force au pouvoir. Et ce sont des déclarations que lui, le président actuel de la transition finie, l'avait, n'est-ce pas, fait, je ne sais pas, fait déclarer. Malheureusement, ils ont fait une semblance de dialogue. Pendant lequel il n'y avait même pas le rebelle qui ont tué Déby, il était absent. Et le vrai opposant, par exemple, le transformateur, était absent pendant ce dialogue. Oui, il fallait, n'est-ce pas, faire simplement des dialogues parce que c'était la seule chance pour les Tchadiens de se parler de ce qui ne marche pas et prendre une personne qui est, n'est-ce pas, faite apolitique ou bien une personne par consensus pour mettre à la tête de la transition pour qu'on organise les élections. Ces élections qu'on va organiser n'excluent personne, c'est-à-dire y compris le président actuel qui se maintient au pouvoir. Donc la logique voudrait qu'il se retire et laisse la transition à quelqu'un d'autre. Pour qu'on fasse, n'est-ce pas, faire l'organisation exacte des élections libres et transparentes pour que le Tchadien qui soit élu, voilà, n'est-ce pas, par. Mais ils ne sont pas malins. Ils ont simplement voulu qu'il en soit fait après le coup d'État. Il s'est maintenu au pouvoir pendant 18 mois. Après 18 mois, 2 ans plus, après 2 ans, il passera encore des élections. C'est-à-dire qu'il est encore autorisé à faire des élections, à se présenter comme candidat. Or, nous savons très bien qu'au Tchad, aucune élection ne sera gagnée par une opposition. Ce n'est pas possible parce qu'ils ont des armes. Les élections ne sont pas ce que nous pensons. En fait, ce que ça passe dans d'autres pays. Au Tchad, ce n'est pas possible. Moi, je suis né sous le débit. Je n'ai connu que débit. Alors, j'avoue qu'aucun président n'a été élu dans ce pays-là. Donc, ça ne serait pas possible. C'est ce qui fait que les jeunes, vu leur situation macabre, vu leur situation intenable dans leur pays, les jeunes ne peuvent pas se retenir, en fait. Parce qu'ils voient simplement le pays. Il faudrait qu'on se ressemble juste à un pays comme le Cameroun, le pays comme le Congo, le pays comme Centrafrique auprès de nous. Mais nous sommes... Nous faisons partie des 3 pays les plus misérables au monde. C'est ce qui fait que les jeunes ne peuvent pas franchement supporter ce pouvoir. Et ce n'est pas le pouvoir que les jeunes cherchent, comme je l'ai tantôt dit, mais les jeunes cherchent simplement la meilleure condition de vie de leur pays. C'est ce qui fait qu'ils préfèrent simplement mourir parce que, étant des gens de mort, et même ils sont, c'est ce qu'ils disent. Voilà, c'est ce qui a dégénéré, n'est-ce pas, fait en cette grande manifestation sanglante depuis 3 jours.
Donc, au fond, quelque part, ce qu'on est en train de craindre, c'est que si l'actuel président se maintient pendant la transition, c'est qu'il va faire le lit d'une réélection sur un tapis et que les élections qui seront organisées après ne pourront en aucun cas être crédibles. C'est ça la crainte qu'expriment les jeunes aussi, d'une certaine façon?
Effectivement, parce que moi, je suis un enfant du Tchad, je sais très bien ce pays-là. Aucune élection ne sera gagnée par une opposition ou par quelqu'un d'autre. Parce que quand on devait, n'est-ce pas, faire aller en élection en 2021, les mêmes Tchadiens ont fait une semblance d'organiser un forum, soit, n'est-ce pas, un dialogue qui réunissait tous les Tchadiens, mais qui a exclu les transformateurs du dialogue. Et simplement, ils sont partis pour modifier la constitution pour dire que pour être président, il faut absolument avoir l'âge au-delà des 45 ans. Et voilà. Parce qu'en ce temps, Mastra Succès avait 38 ans. Il justifiait cela comme quoi, si tu es au-dessus, n'est-ce pas, des 45 ans, tu es immature, ben, il a fallu attendre juste quelques mois que Idriss Déby tombe. Et maintenant, quand Idriss Déby tombe, c'est son enfant de 37 ans qui est maintenant devenu l'homme le plus puissant et l'homme le plus intelligent, je ne sais pas encore, l'homme le... Voilà, c'est ça le Tchad, en fait. Donc, ils reviendront pour dire que Idriss Déby fils, est l'homme le plus puissant du monde. Jusqu'à certains vont partir dire qu'il est le représentant de Dieu sur terre. C'est inadmissible, en fait, dans ce Tchad-là. Donc, ils sont là simplement pour maintenir une personne au pouvoir comme bouclier et protéger, n'est-ce pas, leur intérêt. C'est simplement ça. C'est des personnes qu'on les connaît. Ces personnes sont là, nombreux, très nombreux au Tchad, qui maintiennent par force, surtout avec des armes, ils sont capables de marcher sur les cadavres. Tous ces Tchadiens tombés, c'est parce qu'ils dénoncent, mais on les a tués, pas parce qu'ils sont en train de manifester. Certains étaient arrêtés chez eux, on les a exécutés. Donc c'est comme ça le Tchad. Personne ne gagnera les élections. C'est ce que les Tchadiens savent. C'est pourquoi les jeunes, et ils prennent, n'est-ce pas, prennent cette occasion pour dire malheureusement qu'on nous tue, on va continuer à ce qu'on nous tue. C'est comme ça que les gens sont dans la rue.
Vous avez cité tout à l'heure le nom de Succès Masra. Quel rôle joue-t-il dans ce qui se passe actuellement au Tchad?
Oui, Succès Masra, c'est un jeune qui travaille déjà à la BAC. C'est un économiste, un Tchadien. Franchement, c'est un grand leader qui a créé, n'est-ce pas, fait un parti qui s'appelle le Transformateur. Lui, sa rhétorique, dis-moi sa politique, c'est une politique toute faite moderne qui sert, n'est-ce pas, faite à servir le peuple. C'est comme ça que ce monsieur s'est lancé dans la politique pour, en fait, et Donc, quand vous lisez, n'est-ce pas, faites son idéologie, ça fait absolument adhérer les jeunes. Parce que lui, ce n'est pas simplement le pouvoir. Il veut absolument que ce Tchad-là soit changé. Quand, quand il tient, n'est-ce pas, faire son discours, ça fait franchement adhérer les jeunes, ça fait franchement adhérer le monde. C'est comme ça qu'il est devenu, n'est-ce pas, fait, en sorte, n'est-ce pas, fait, une personnalité, je ne sais pas, fait plébiscité par les jeunes. Alors, son rôle n'y est pas. Tout ce qu'il fait, il demande d'abord la jeunesse, la population. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'a jamais fait quelque chose de lui-même. Je vous envoie simplement consulter sa page. Surtout l'image, la date qu'on a convoquée à la justice. Imaginez ce monde en vidéo. Au bout d'une heure du temps, au moins centaines de milliers de personnes ont regagné Masra Succès pour l'accompagner à la justice. Parce que ce n'est pas Masra que les gens convoquent, mais c'est la jeunesse. Surtout, n'est-ce pas, les méprisés qui sont convoqués. C'est comme ça, en fait. Sa politique, ce n'est pas veut dire que c'est Masra qui a convoqué les jeunes. Les jeunes sont en train de lutter pour leur propre vie à eux, parce qu'ils sont en train de vouloir, n'est-ce pas, faire les conditions améliorées. Donc, Masra fait partie de la tête. Simplement, ce n'est pas Masra. Il ne fait pas quelque chose de lui-même. Je vous dis une autre chose. En 2016, quand Saleh Kebzabo, actuel premier ministre de la transition, était candidat, il était le seul homme que toute la jeunesse tchadienne était derrière lui. Et les jeunes, ce n'est pas la politique qui cherche. Ils sont en train de chercher qui peut les sauver. C'est simplement, ils sont en train de chercher les voies de se faire sauver de leur situation. Ce n'est pas dire que c'est Masra qui a réuni. Non, les jeunes cherchent qui est mieux pour nous sauver. Donc, ce n'est pas Masra qui est, n'est-ce pas, la cause. Il n'est plus la cause. Après Masra, je vous assure que même après Masra, il y aura encore d'autres jeunes qui se feront plus que Masra. Donc, ce qui veut dire que Masra n'est rien dans cette affaire. C'est l'injustice. Disons que c'est l'injustice cruelle qui a fait que les jeunes vont toujours sortir. Ils vont continuer toujours à sortir. Il naîtra encore d'autres Masra, même après Masra. Voilà.
Donc, les jeunes tchadiens n'ont pas besoin de quelqu'un pour les manipuler, qui les pousserait dans la rue. C'est vraiment leur situation au quotidien, au jour le jour. C'est leur avenir qui les motive à manifester aujourd'hui dans ce Tchad. Une autre question, Niankero Ozias, c'est le Tchad est un pays très militarisé. Ça fait le pouvoir aux mains des militaires depuis plusieurs décennies. Mais il y a aussi un aspect, un autre clivage dont je voudrais qu'on parle ici, c'est le clivage religieux, l'opposition entre les populations musulmanes plus au nord du pays et les populations chrétiennes plus au sud du pays. Est-ce que dans ce qui se passe actuellement au Tchad, quelle est la part de la religion dans ces manifestations? Quelle est la part des appartenances religieuses, communautaires ou tribales dans ces affrontements, dans ce qu'on voit aujourd'hui au Tchad?
Oui, en termes de la religion, moi je n'ai jamais abordé, n'est-ce pas, la question qui traite de la religion dans ce pays. Parce que si c'est le communautarisme, je dis oui, parce qu'il y a le communautarisme, mais pas la religion en fait. Surtout la religion musulmane, il y a une grande partie de la population méridionale, c'est-à-dire la population du sud, qui est aussi musulmane. Je vous dis par exemple, j'ai deux frères qui s'appellent Omar et qui sont à Amadou, j'ai un oncle qui s'appelle Abdallah, tous ces gens-là, c'est des noms à connotation en fait musulmane. Ce qui veut dire qu'un oncle peut être musulman, un papa peut être chrétien. Pour ça, je pense que c'est pas ça, il ne s'agit pas de la religion, mais des communautarismes. Je vous explique pourquoi on n'a pas fait ce clivage, pourquoi le Tchad est visiblement divisé en deux, mais les gens ne veulent pas reconnaître ça. Semble que c'est des points sensibles, tout ça. Non. Il y a des choses que les gens traînent dessus pour simplement aller chercher la vérité pendant qu'il y a une vérité auprès d'eux. En fait. C'est-à-dire, on traverse la vérité pour aller chercher la vérité. Je vous explique. Le Tchad est un pays effectivement divisé en deux. Divisé en deux pourquoi? Parce que depuis lors, depuis Hissène Habré, aucun sudiste n'a eu la chance d'accéder au pouvoir, ni par élection, ni par les armes. Généralement, les gens du Sud n'aiment pas la rébellion. C'est comme ça que les choses sont restées toujours, n'est-ce pas, gérées par une seule, juste une région. C'est pas d'abord tous les nordistes, ou bien comme on a l'habitude de les dire. Moi, j'ai l'habitude de les appeler nordistes et sudistes parce que je me suis dit que c'est la liberté, en fait. La démocratie me permet de les dire clairement. Alors, ils ont maintenu des choses de sorte que dans le 23 gouvernorats, 3 provinces, au moins 20 sont de même région. 20 gouverneurs sont de même région. Peut-être 3 seulement qui seraient des gens du sud. Les 45 dans le 44 postes ministériels qu'on vient actuellement de mettre sur pied, ou bien mettre sur place, seulement 9 sont du sud, dont 35 sont du nord. Je prends simplement la manifestation qui se passe actuellement. Le quartier comment je ne sais pas faire, quartier comme Charumongo, quartier comme Dembe, Chagua, Mursal, Abenan, Gassi, Atronamtuki, Walia, Tukurangeli, tous ces quartiers, c'est des quartiers habités par le sud. Donc, les quartiers du nord du Ndjamena est habité exclusivement par les gens du nord. Les quartiers sud du Tchad est habité aussi exclusivement par les gens du sud. Donc, actuellement, ces manifestations se passent régulièrement et que dans le quartier du Sud, méprisé, marginalisé, exclu de la gestion de la chose publique. Donc, c'est ce qui fait que, quand tu vois actuellement, il y a couvre-feu. Ce couvre-feu ne prend que la ville de N'Djamena et tout le Sud, et non le Nord. Quand la manifestation, les grandes villes du Nord, aucune ville n'a manifesté, à part la ville de Mongo, que quelques jeunes sont sortis. Donc, le Tchad est divisé en deux. Donc, toutes les gestions de la chose publique, surtout tous les commandements, tu prends les régions du sud, les commandants, les commissaires de la police, les quoi, toutes, ce sont des mêmes personnes d'une même région du nord qui méprisent là-bas. Pour une petite manifestation, les gens sortent avec des armes. Pour ce qui s'est passé avant-hier, hier, tout ça, les gens manifestent, c'est la police qui intervient avec des gaz pour les disperser. Mais au contraire, il y a des gens qui viennent avec des voitures, et ce sont des voitures privées, qui sortent avec des boubous, directement armés, ils commencent à tirer sur eux. Ils font directement irruption parmi les manifestants, ils commencent directement à les tirer dessus. Alors, mais sachant déjà qu'au Tchad, il y a ces clivages, mais les visibilités, en fait, c'est possible. On sait qui s'habille comment. Les gens du Nord, ils s'habillent avec des boubous. Pour la plupart, les 99% des gens du Nord s'habillent en boubous. Et en même temps, les 99% des gens du Sud s'habillent en habit ordinaire comme nous autres. Donc, dès que la personne, sa manière de marcher, sa manière de faire des choses, tout, quand il sort, on sait automatiquement que c'est lui l'élu du Nord, c'est lui l'élu du Sud. Donc, ce qui était en train de tirer sur les gens directement avec des armes, c'est des personnes prises, en fait, avec des habits civils et qui sortent des voitures privées avec des armes, directement, elles continuent à tirer sur les gens. Ce sont ceux qui ont fait tomber au masque 150 quelques personnes. À Mundu, des choses comme ça, ça s'est passé. Donc, lamentablement, les manifestants ne savent qui est civil en train de les tuer et qui est simplement un commerçant avec boubou en train de passer. Ça serait ça peut-être, mais je n'ai pas des informations exactement, si effectivement ils ont tué des gens à Mundu par leur appartenance d'habillement, soit n'est-ce pas, alors je ne sais pas, physique. Donc, ça serait ça, et il y a des gens qu'on appelle ANS, c'est-à-dire Agence Nationale de Sécurité, ou bien je ne sais pas, des renseignements. C'est une branche de la police, j'allais dire c'est milice, je ne sais pas quel est leur rôle. Pour eux, c'est des gens qui soustraient des gens soit la nuit, soit ils les font tuer, mais ils sont toujours en civil. Donc ce sont ces gens-là qui tuent plus. Alors, c'est comme ça, ils s'infiltrent aussi parmi les manifestants. Si les manifestants les détectent, ils peuvent leur faire du mal. Donc là, c'est ça qui s'est passé. Mais pas la religion. Personne ne touche à la religion. C'est faux. Ce sont des faux trucs pour simplement se donner le pouvoir, pour dire que non, ces manifestants-là sont en train de s'attaquer à un truc religieux. C'est simplement pour se donner le point. Sinon, en réalité, Les Tchadiens ne luttent pas par religion. Notre lutte, c'est celle, n'est-ce pas, de l'égalité, de la justice, de restaurer l'homme en otage. Parce que les Tchadiens sont en exil dans leur propre pays. Voilà.
Donc, si je comprends bien, tout le pouvoir est détenu par les personnes originaires du nord du pays. L'appareil sécuritaire est détenu par les personnes originaires du nord du pays. Et la majorité des personnes qui ont perdu la vie dans les manifestations, la majorité des personnes qui ont été blessées dans ces manifestations sont originaires du sud du pays. On est là dans un conflit qui communautaire à la limite. Comment est-ce qu'on va s'en sortir en une minute, parce que le temps il file vite? Quelles seraient les pistes de solution?
Les pistes de solution sont, c'est que franchement, s'il y a autre possibilité, c'est celle peut-être de demander. Moi, à mon niveau, en fait, moi, j'ai conclu de ma manière. Je n'ai pas consulté quelqu'un pour le dire. Moi, je dis que nous avons des comportements complètement différents. On ne peut pas vivre ensemble. Est-ce que, moi, j'ai souvent relayé que la seule solution pour stopper ce sang qui verse tout le temps, c'est de demander la scission, la division de cette île en deux. Parce que c'est incompatible. Un jeune du Sud n'est pas capable de se marier à une fille du Nord. C'est pas facile. Même dans le quartier, les gens vivent différemment déjà en clivage. Le Nord est différent. Le Sud est différent. C'est faux. Les gens vont traîner dessus pour ne pas dire la vérité. Non. Quand on demande la division, ce n'est pas veut dire que c'est la guerre, non. Parce que le sang verse. Les gens parlent, ils tuent les gens au nom de l'unité. Les gens tuent les gens au nom de vivre ensemble, mais c'est faux. Il est bon qu'on demande, n'est-ce pas, la scission, qu'on introduise, n'est-ce pas, une demande de scission au niveau de l'ONU pour que les pays soient divisés. Bon, nous autres, on va peut-être aller voir nos amis du Nord, ceux du Sud. Bon, si moi, j'ai envie de recevoir le Nord, je reste. Si j'ai envie de rester du Sud, je viendrai rester en tant qu'un humain. Et c'est bien du sang, la vente calmée. Parce que c'est impossible. Là où nous sommes, le Tchad est deux. Mais les gens ne veulent pas simplement, franchement, en fait, dire ce qui est vrai. Il y a que 3% des Tchadiens qui sont en captivité, on les fait jouer comme des têtes de proue pour faire la représentativité, simplement pour dire que c'est tous les Tchadiens qui sont au pouvoir. Non, il n'y a que 3% de Tchadiens qui sont actuellement dans la gestion de la chose publique avec ces gens du Nord. C'est faux. Le Tchad n'est pas en train de vivre la paix. Nous sommes en train de vivre simplement des carnages. Donc ce carnage ne peut être arrêté que par la demande d'une scission, exactement, les pays soient divisés en deux, tout ira bien. Sinon, ce n'est pas possible.
Nankere Ozias, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci
d'avoir exprimé votre point de vue, que je vous laisse totalement assumer. C'est une première invitation ici dans Sekaya pour Dignité Noire. On espère que ça ne sera pas la dernière. Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il est 19h30 à Québec. Vous êtes sur CKIA 88.3 FM et vous écoutez Dignité Noire. C'était là notre première invitée, Nankere Ozias, avec qui nous avons discuté de la situation actuelle au Tchad. Avant de parler de Rumba avec notre rubrique Escale Rumba, je voudrais prendre un temps pour parler d'un article que je trouvais très intéressant, écrit par Yasmine Zari et publié sur le net sur le site diparadise.com, di-6paradise.com. Et cet article intitulé « L'impact du racisme sur la santé mentale, comment s'en défaire ?» Souvent, quand on parle du racisme, on parle de son impact sur le plan social, sur le fait que certaines personnes n'ont pas accès au logement, certaines personnes ne vont pas avoir accès à un emploi en raison de leur origine ethnique.
Mais au-delà des conséquences matérielles, des conséquences financières, d'une certaine stigmatisation sociale, il faut savoir que le racisme a un impact sur la santé mentale des individus, notamment des personnes issues de l'immigration ou de communautés racisées. Et cet impact peut être d'autant plus dérangeant lorsqu'il s'agit de personnes généralement jeunes. La discrimination raciale commence très tôt dans la vie d'un individu, que ce soit de façon directe ou indirecte, à travers l'expérience perçue de ses pairs, engendrant chez l'enfant ou l'adolescent un nombre considérable de séquelles. Et ce racisme peut être sournois, peut être quotidien, et parfois ne pas être directement perçu comme tel. Parfois même, c'est la personne qui agresse qui ne s'en rend pas compte, alors que la personne qui subit l'agression vit un effet de cumul suite à cette accumulation, à cette répétition, à cet effet de répétition de micro-agression. Les petites phrases du genre hein, « mais pour un noir, tu parles bien français » ou à l'inverse, par exemple, que « tu es trop nul en maths pour un chinois » sont des petites agressions que les gens écoutent, entendent tout le long de leur existence et qui finissent par entraîner un certain nombre d'effets sur le plan de la santé mentale. Alors, dans cet article, Yasmine Zari donne quelques pistes, quelques idées pour pouvoir se défaire de ce carcan, de l'impact que ces petites agressions peuvent avoir sur soi. Elle dit, elle propose par exemple, première étape, commencer par développer de la compassion pour soi. Donnez-vous du temps et de l'espace pour être conscient de vos émotions. Cela signifie qu'il faut s'offrir en guise de cadeau chaque jour un petit moment en compagnie de soi pour s'ancrer dans le moment présent et pouvoir ressentir ses émotions ainsi en être pleinement conscient. Deuxième proposition pour se sortir de ces situations ou des conséquences de ces agressions racistes, il y a la communication. Des études ont montré que parler du racisme aux autres est une stratégie d'adaptation. Le fait de se lier aux autres se révélerait être associé à un meilleur bien-être parmi les minorités. Troisième proposition, construire son identité, avoir une vraie connaissance de son identité et de ses origines ethniques, d'où l'intérêt pour les personnes issues de l'immigration de connaître à minima leur histoire, de connaître l'histoire de leurs ancêtres et ainsi de se positionner par rapport à l'histoire générale de l'humanité et avoir conscience de ce qu'on appelle les biais implicites. C'est l'ensemble des attitudes que nous avons envers les gens ou les stéréotypes que nous associons à eux de façon inconsciente. Dans la tête de beaucoup de gens, les Africains dansent bien. Autre proposition, la sensibilisation. Parler du sujet du racisme avec autrui est à la fois une façon d'en connaître plus sur soi-même, mais aussi de sensibiliser au racisme des individus qui ne le vivent pas quotidiennement et ne mesurent donc pas totalement les impacts réels que cela peut avoir sur notre santé mentale. Et enfin, se rappeler qu'on a le droit de communiquer son mécontentement dans le cas d'une discrimination. Les rencontres racistes sont très difficiles à gérer. Celles-ci peuvent manifester en nous un panel large de sentiments négatifs et c'est le droit de tout un chacun de se défendre dans le cas d'une expérience de cette nature. Il est donc important de communiquer avec des mots clairs, fermes et précis sans tomber dans la violence ni la méchanceté. Arundhati Roy, écrivaine et militante indienne, a dit un jour « On ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents. » Le racisme peut toucher n'importe qui d'entre nous. Tout le monde est concerné par le racisme. C'est un combat qu'on doit prendre à cœur et essayer chaque jour de changer le monde qui nous entoure. Nous allons à présent nous rendre du côté de Paris et retrouver Kerwin Maizou pour Escale Rumba, aujourd'hui consacré à Verkis Kiamangana Mateta. Kerwin Maizou, bonsoir. Escale Rumba aujourd'hui à Kinshasa pour parler de Verkis Kiamangana Mateta qui nous a quitté il y a exactement une semaine, le 13 octobre 2022. Qui était cet artiste musicien?
J'ai envie de dire un des derniers des Mohicans. C'est un des grands artistes que la République démocratique du Congo ait jamais eu. C'est un saxophoniste, auteur, compositeur, arrangeur. Il était aussi producteur, chanteur et c'est le premier Congolais à avoir son propre label. Donc c'était un homme aux multiples facettes, un homme qui a marqué l'histoire de la musique congolaise, un homme qui a impacté l'évolution de la rumba. Il a impacté de manière volontaire. Il a aussi impacté de façon accidentelle en laissant à la postérité quelques œuvres qui méritent d'être mises en exergue.
Kerwin Maizou, sans exagérer, s'il y a une chanson de Verkis Kiamangana Mateta qu'on n'oubliera pas, c'est celle-ci.
Osomino e utande wapio. Osomino e utande wapio.
Dans cette chanson existentielle, Nakomitu Naka, ça veut dire en lingala, on peut traduire littéralement par je me demande, Kiamangana Mateta se pose mille questions. Il dit par exemple que Adam et Ève c'était des blancs, tous les saints sont des blancs, alors les noirs ils sont venus d'où? Et cette chanson lui a valu les foudres de l'église catholique puissante au Congo Kinshasa. Cette chanson est une a quelques relents révolutionnaires, si tu veux. C'est aussi une forme d'engagement civique et citoyen et même, je vais dire, métaphysique de cet artiste Kiamangana Mateta.
Effectivement, Kiamangana était un grand compositeur. Hein. Il a été, par exemple, dans le tout-puissant Okijaz de Franco Luambo Makiadi, avec des titres à succès tels que Fifi Solange, Bolingo Florence, Bolingo Yabouji, Chérie au changé. Ouais, toutes ces chansons, il y en a un qui sort du lot. Cette chanson sort du lot de par la qualité technique de cette chanson, le saxo, l'agencement des guitares, les rythmes, la voix mélancolique, mais aussi, surtout, par les thèmes exploités. Et comment les thèmes ont été exploités? Parce que si on écoute cette chanson, au tout début, hein, la République démocratique du Congo, disons, à l'époque, c'était déjà devenu Zaïre, au tout début, le pays était encore trop jeune, venait de sortir de la colonisation, et il y avait un discours ambiant qui faisait que beaucoup ont cru que l'homme blanc était supérieur au noir. Alors, lui, il vient remettre en filigrane, lorsqu'on écoute la chanson jusqu'au bout, il vient remettre en cause cette thèse. Il se pose la question, bon, d'où venons-nous? Je me pose la question, d'où venons-nous? On nous dit que Dieu était blanc. On nous dit que Jésus était blanc. On nous dit que les anges étaient blancs. Lorsque c'est bien, c'est blanc. Lorsque c'est pas bien, c'est noir. D'ailleurs, on s'en rend compte aujourd'hui dans les expressions. Hein. Une colère noire, blanche comme neige, voilà. Toujours des expressions comme ça.
Travailler comme un nègre.
Oui, travailler comme un nègre, voilà. Donc, des expressions... Après, on nous dit que le nègre est paresseux. Voilà, donc, des expressions comme ça qu'il remet en cause. Parce que vers la fin de la chanson, il dénonce clairement la colonisation lorsqu'il parle des oncles, ce que les oncles nous ont inculqué, c'est-à-dire les Belges. Donc, il remet en cause cette façon de penser. À cette époque, il fallait le faire, il fallait oser affronter les colons, oser affronter l'Église catholique. Quand je dis les colons, hein, bon, ils venaient de partir, mais c'est comme s'ils n'étaient pas partis. Oser affronter ceux que l'on considérait comme étant les bras séculiers de la colonisation, qui sont restés, qui ont continué à perpétuer une certaine façon de penser, parce que c'est eux qui détenaient les rênes de l'éducation au pays. L'Église catholique, c'était le plus grand réseau des écoles au Congo. Oser les affronter. Donc, c'était une chanson osée. Sur le plan artistique, c'est un chef-d'œuvre. Et sur le plan engagement, sur le plan texte, c'est aussi un chef-d'œuvre. Et c'est une des chansons que l'on met dans les annales de l'historiographie de la musique congolaise comme étant une chanson qui sort de l'ordinaire, qui sort du lot. C'est une chanson inusable et qui n'a pas pris une seule ride. On peut juste... changer certains mots pour que l'on puisse, par exemple, à travers cette chanson, fustiger les relations nord-sud, qui sont des relations extrêmement inégalitaires. En fait, dans cette chanson, Verkis Kyamangana est en train de dénoncer les discriminations, les injustices. C'est une chanson aujourd'hui qui parlerait aux femmes, c'est une chanson aujourd'hui qui parlerait aux pauvres, c'est une chanson aujourd'hui qui parlerait aux prolétaires, c'est une chanson aujourd'hui qui parlerait aux peuples opprimés, c'est une chanson aujourd'hui qui parlerait à l'immigré qui ne parvient pas à trouver sa place dans un pays. C'est une chanson où il suffit d'échanger quelques deux, trois phrases ou deux mots pour que la chanson garde toujours tout son sens. Donc c'est vraiment une des chansons qui sort de l'ordinaire.
Dans la chanson, il pointe aussi du doigt des incohérences, notamment au niveau de l'Église catholique, en disant nos statues, nos fétiches, ils ont dit qu'il fallait jeter, que c'était pas bien, mais oui. Quand on est à la messe, on voit des statues, on voit qu'il y a des chapelets, on voit. Et c'était quand même culotté de tenir de tels propos dans le contexte qui était celui de l'époque.
C'était osé, c'était audacieux, et à l'époque, il avait tout simplement oublié de préciser que ces statues dont on avait dit que c'était de la sorcellerie, c'était satanique, c'était pas bien, se retrouvent dans les musées ici, et ça ramène beaucoup d'argent. Hein. Si on va à Tervuren en Belgique, musée Beaubourg ici en France ou au Grand Palais, même au Louvre ou Tate Museum à New York, Guggenheim, ou je ne sais pas moi, à Londres, ce sont des statues qu'on avait arrachées aux Africains, leur disant que c'est pas bien votre culture. Et curieusement, on arrache une statue et quand vous allez à l'église, vous retrouvez une autre statue avec une différence de couleur. Donc la couleur n'épargne même pas les statuettes, en fait. Même pour une statuette, pour être de grande qualité, il faut être de couleur blanche.
Verkis Kyamangana, un artiste immense, on vient de le dire, mais c'était aussi un homme d'affaires. Un homme d'affaires et qui croyait à la musique et qui a cru à la musique comme source de production, de richesse et d'argent. Donc il avait son propre label et il a donné des instruments à beaucoup d'orchestres de Kinshasa.
C'est un redoutable homme d'affaires. Il avait de multiples cassettes. C'est ainsi que j'ai dit au début que c'est le premier Congolais à avoir son propre label. Mais c'était un des rares à l'époque à avoir des instruments de musique, qui était une denrée rare à Kinshasa. Et c'est le premier à avoir construit un immeuble, je veux dire, de 4 étages, hein, un véritable immeuble. C'est pas une maison, mais un immeuble. Donc c'est le premier. Alors, avec ces instruments de musique qu'il avait, il y a une anecdote hein, qui mérite d'être racontée. Il a sanctionné les groupes Zaïko, il était en conflit avec Zaïko, il a sanctionné les groupes Zaïko. Dans un premier temps, il crée une dissidence au sein des Zaïko pour créer les groupes Langa Langa Star qu'on appelait les Sept Patrons avec Evoloco Joker et un certain Juna Janana, le papa de deux stars hyper connues, Maître Gims et Dadju. Donc il va créer cet orchestre et va sanctionner Zaïko. Alors Zaïko s'est débrouillé bon an mal an pour avoir des instruments et lorsqu'ils les ont eus, ils cherchaient à ramener une innovation qui frapperait les esprits lors de leur retour sur scène à l'esplanade de la Voix du Zaïre qui est devenue aujourd'hui la RTNC, donc la Radio Nationale Congolaise. C'est ainsi que Verkis étant saxophoniste, donc quelqu'un de la section cuivre d'un quelconque groupe, Zaïko va avoir l'ingéniosité de supprimer la section cuivre et les remplacer par des animateurs qu'ils ont rencontrés par hasard, les deux, Nono et Doudou, qu'ils ont rencontrés dans un match de football amateur où ils ont vu deux jeunes hommes, disons un jeune homme, qui chantait son reportage. Il reportait les matchs en chantant, avec un maracas. On s'est dit, c'est intéressant ce que vous faites, venez à la répétition et on pourra utiliser vos talents. Lui va ramener son ami, donc c'était Nono, lui va ramener son ami Doudou et le téléspectateur Zaïrois de l'époque verront à la télé.
Doudou ou bébé à l'époque
Pardon, plutôt bébé. Non, c'était Nono et bébé. Doudou est venu juste après bébé. Juste voilà. Après, ouais. Ouais. Donc, les Congolais, autant pour moi, donc les Congolais verront à la télévision Zaïko avec deux animateurs, la danse Zekété. Et les deux animateurs disaient en Kikongo, Atala Koumama Zekété, c'est-à-dire regarde-moi comment je danse les Zekété, regarde-moi comment je m'exhibe. Et comme les gens ne connaissaient pas ce phénomène, ne connaissaient pas comment appeler ces gens-là, ils ont dit bon, ce sont des gens qui chantent Atalaku, regarde-moi, ben on va les appeler Atalaku. C'est la naissance du phénomène Atalaku dont Verkis est à la base de façon accidentelle. Ça, il faut le souligner aussi. Bon, il a eu dans son groupe un certain Sax Sakoul qui après, qu'on appelait Sinatra, qui après va aller créer les trios Majesty. Les trios Majesty, il y avait Matadidi, il y avait Sakoul et...
Jeskin Masengo.
Jeskin Masengo. C'est la première fois qu'il y avait une espèce de panafricanisme musical. Parce que l'un est du Congo-Kinshasa, l'autre est du Congo-Brazzaville, et le dernier est de l'Angola, donc le Royaume Congo. Ce que les politiques ne parviennent pas à faire, et déjà à l'époque, ils étaient capables de fédérer des artistes de trois pays différents, les mettre ensemble et nous donner un des groupes qui a eu le plus grand succès. Verkis n'était pas que ça. Verkis a géré l'UMISA, hein, l'Union Nationale des Musiciens Congolais, hein, la société, une espèce de syndicat qui défendait les intérêts des musiciens. Et dernièrement, il était même dans le
syndicat.
Le syndicat maintenant, qui est la société des droits d'auteur. Hein, la société des droits d'auteur. Donc c'était un homme d'affaires, je dirais, multidimensionnel. Il était polyvalent en fait. Il était polyvalent. Il était bon en tant que manager, il était bon en tant qu'homme d'affaires, il était bon en tant que producteur, il était bon en tant que saxophoniste, il était bon en tant que compositeur, il était bon en tant que musicien tout simplement, et il était bon aussi en tant que stratège.
Homme d'affaires, multicasquette, il a eu à gérer plusieurs orchestres à Kinshasa. Il y a eu aussi des problèmes avec certains. Parfois, ça ne s'est pas toujours bien passé. C'est comme ça que Feu Emene Akester l'avait surnommé Oazolanzimbo.
C'est quelqu'un qui aimait beaucoup
l'argent. Et ça en disait long sur le rapport. Mais au-delà de ça, Verkis Kiamonga dans ma tête associe une certaine forme de sagesse et aussi avec une façon particulière de faire passer cela. Je vais raconter cette histoire au cours d'une interview. On lui pose la question de savoir pourquoi lui qui a eu tellement de l'argent, tellement des opportunités, on l'a jamais vu rouler avec des voitures de luxe dans Kinshasa comme certains autres musiciens. Alors, la réponse de Verkis Kiamonga à cette question était la suivante. C'était une dame qui l'interviewait. Il lui a dit, Madame, est-ce que vous avez déjà vu une épave de maison? pour dire que on a facilement des épaves de voiture, mais les épaves de maison, on n'en a pas. Et il a alors expliqué que lui, quand il avait de l'argent, il a investi dans l'immobilier et c'est ça qui lui permet d'être toujours, d'avoir toujours la cote.
Et son immeuble est une référence à Kinshasa lorsque vous cherchez des fois une adresse. Bien que Kinshasa soit une de villes africaines où il y a vraiment des adresses, c'était référence à VV Center. Il faut aller à l'immeuble VV Center, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est un immeuble dans un quartier populaire assez imposant qui va. On ne peut pas parler de Verkis sans penser par association des idées à cet immeuble. Et puis, on dira que les Bakongo, hein, cette partie du Congo, qu'on appelle les Bakongo, lui, les Musingombe, c'est des bons gestionnaires et c'est des gens généralement discrets. Et puis, il est quand même important de souligner que si on a connu Verkis comme saxophoniste, il a fait ses écoles dans l'église kimbanguiste, dans une fanfare kimbanguiste, les célèbres fanfares kimbanguistes qui ont quand même produit beaucoup de gens. C'est la seule église qui a produit beaucoup, notamment beaucoup de gens qui sont passés par l'air fanfare. Et il y a un groupe de musique classique qui fait des tournées, y compris en Europe. Donc Verkis est un pur produit de l'église kimbanguiste. Ça, c'était aussi important à souligner, vu l'importance des religions en République démocratique du Congo. C'est peut-être cette conscience kimbanguiste, hein, avec l'idéologie de Simon Kimbangu, qui a fait qu'il compose la chanson dont on a parlé, Mzambe Nakomitunaka. En tout cas, ça peut être lié.
On a commencé cette discussion, tu as utilisé le terme « dernier de Mohican », on va dire vraiment après Franco Lomboma qui a dit « après Tabouley », je pense que Kiamonga Namaté était le dernier de cette génération, à mon avis en tout. Enfin, je ne sais pas s'il y en a encore
en
d'autres.
En tout cas, on essaye comme ça de réfléchir, mais apparemment, c'est le dernier qui vient de rendre
de cette génération, donc qui nous a quittés il y a une semaine. Toute notre sympathie à la famille, c'est un grand monument de la musique congolaise qui est parti et on va garder un souvenir avec les œuvres qu'il nous a laissées. Kerwin Maizo, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines pour Escale Rumba.
Ça sera toujours avec plaisir.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Osomino e utande wapio Osomino e utande wapio Koko na biso ya kala yena nie Yesu mwana nzambe yende mondele Atamu na Eva bangonde mindele Basatu nyoso bangope mindele Bona ninyo Ae na komitu na ba Dambeo na komi tunako Babu kwa dambe tomo na kaboye Basa tunyoso
Pour nous joindre, dignité@ckiafm.org.
Amis à l'écoute, nous sommes à présent arrivé à la fin de ce numéro de Dignité Noire. C'est avec plaisir que je vous retrouverai dans 2 semaines, même heure, même fréquence. Prenez soin de vous et comme le dit souvent l'ami Mbaye, chaque jour est une vie. À la fois prochaine.
Le magazine Dignité Noire.
C'est K. Afrique.
Êtes-vous locataire à Montréal? Avez-vous des questions sur vos droits? Votre comité logement peut vous aider. Pour trouver le comité logement pour votre quartier ou pour plus de ressources, visitez le www.rclalq.qc.ca.
Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonniers et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonniers en se concentrant sur les racines de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonniers et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collecte de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-876-3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748 pour les appels Collecte. On a aussi un numéro normal qui est 438-337-8423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
I went to residential school. I was just 8 years old.
Gayla Kassla. My name is Gennarji O'Sullivan of the Tlaalitsis Nation, originally from Turner Island. You're listening to Wendell exploring the legacy of Indian residential schools.
Our next speaker here is Viola Thomas. She is also a residential school survivor.
Part of our obligation where I work with the Truth and Reconciliation Commission of Canada is to inform Canadians on the truth. But I believe that as more Canadian people understand that this was Canadian law and Canadian policy, and that Canadians need to take responsibility for their shared history, I also believe that Canadians have a responsibility to resonate reconciliation with the First Peoples of this country. And what did we learn when we went to the school? We learned how to be bullies, how to be mean to each other, how not to love, how not to feel a great sense of pride of who you are and where you come from. I learned about racism, and I didn't know what that was. I really didn't know what racism was. I learned about sexism, and as a young girl, I didn't know about sexism. There were many forms of abuse, not just the physical, but the intellectual abuse. To always be reminded that you're stupid and that you're nobody. To be told by your teachers and by the folks from the church that you're a savage, you're a squaw. And I just want to close with one of my heroes, a woman by the name of Winona LaDuc. And I offer this to all of our brothers and sisters who were abducted to residential schools. And I offer this with a good heart to non-Indigenous people so that they will pick up the torch. And this is what she says. There is no social change fairy. There is only change made by the hands of individuals.
You have just heard at Window exploring the legacy of Indian residential schools. Both my mother and I attended St. Michael's Residential School in Alert Bay, BC. This is a part of a larger project called Resonating Reconciliation that engages community radio as a tool to help define what reconciliation is. Resonating Reconciliation is meant to help reconcile all Canadians to this shared history. This is the work of the National Campus and Community Radio Association, the Red Jam Slam Society, and this station. Resonating Reconciliation is also supported by the Indian Residential School.
Work it.